Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Régulièrement dans ce podcast, nous nous sommes fait l'écho d'un certain nombre de changements en cours dans la manière qu'ont nos contemporains, et surtout nos contemporaines, de percevoir, de revendiquer, de reconquérir leur corps. Que ça soit sous l'angle de la sexualité, de la pilosité ou du poids, le temps est clairement assez favorable à l'acceptation de soi. C'est d'ailleurs l'une des thématiques récurrentes d'un autre podcast, Miroir Miroir, de ma camarade Jennifer Padjemi, que je vous incite très fortement à découvrir si c'est pas encore fait. Malgré tout, comment ne serait-ce qu'entamer ce travail de rejet des injonctions lorsque ce corps, justement, vous échappe, vous fait souffrir, notamment dans l'intimité. Difficile, d'autant plus que la douleur, puisqu'il faut bien nommer les choses, reste un tabou auquel va s'attaquer le reportage qui suit. Il est signé par Élise Coutenouillan, c'est Jules Cros qui l'a réalisé, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Si comme moi, vous passez un peu trop de temps sur Instagram, vous avez sûrement vu des comptes comme Tajoui, Je m'emballe Clito, Jouissance Club ou Clit Révolution. Leur point commun, c'est de revendiquer le plaisir féminin sans tabou. Mais dans cette nouvelle révolution sexuelle post-MeToo, il reste un angle mort, les douleurs intimes.
Ça a commencé il y a 8 ou 9 ans, à peu près. Et c'est des douleurs qui sont apparues au début pendant les rapports sexuels, des douleurs vaginales à l'intérieur et aussi superficielles. Et en un an, c'est passé de seulement pendant les rapports à tout le temps quand je marche dans la rue, toute la journée.
J'ai déjà essayé de mettre des tampons et à chaque fois c'était une catastrophe. J'arrivais à mettre 1 ou 2 centimètres, même pas 1 centimètre, et j'avais très très mal, je me mettais à pleurer et après je m'évanouissais, c'était... une catastrophe.
Et ben au début je pensais que j'étais la seule. Pour moi au début c'était moi le problème, donc j'arrivais pas à imaginer qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient en souffrir.
Elles s'appellent Mélissa, Emma et Sarah, elles ont entre 20 et 30 ans, elles souffrent de douleurs chroniques au niveau de leur sexe. Dans le jargon médical, on appelle ça des dyspareunies. Il est difficile d'avoir des statistiques très précises, mais on estime que jusqu'à un quart des femmes connaîtront à un moment de leur vie des difficultés au rapport sexuel. C'est énorme. Et même si on parle de pénétration, ces douleurs ne concernent pas uniquement les femmes hétéros. Avoir mal au sexe, ça peut transformer la vie quotidienne en enfer. Comment vit-on en tant que femme quand on connaît des troubles gynécologiques? Quels impacts ont-ils sur la vie affective et intime, sur l'estime de soi? Comment soigne-t-on ces douleurs? Sarah, Mélissa et Emma ont accepté de se confier pour lever les tabous. Je les ai rencontrées dans le cabinet de leur kiné, Isabelle Gontard, dans le 11e arrondissement de Paris. Elles suivent toutes les trois une rééducation périnéale. Elles ont bien voulu que j'enregistre certaines séances. Mais avant d'entendre leur témoignage, j'ai demandé à Isabelle Gontard de m'expliquer comment elle soignait ses patientes.
Dans un traitement, on va commencer par une première séance où j'accueille la patiente et on fait un point ensemble sur ce qui l'amène ici, quelle a été son histoire, quelles sont ses motivations à venir, qu'est-ce qu'elle attend du traitement. Et ensuite, à partir de cette séance, une fois qu'on a présenté ensemble comment ça allait se dérouler, on va pouvoir commencer la thérapie à proprement parler. On va se concentrer premièrement donc sur l'aspect physique, c'est sûr, faire le premier toucher vaginal s'il est possible, essayer de comprendre comment fonctionne le périnée et comment on peut réussir à le relâcher si c'est l'un des problèmes, se situer aussi physiquement dans son propre corps, et puis aussi dans un deuxième temps, ou premièrement, éventuellement, travailler sur tout le versant de la représentation et du vécu qu'a chaque femme de son corps. Travailler sur la représentation du corps, ça peut passer par une séance assez théorique finalement, où on parle d'anatomie, de comment on est faite, de quels sont les éléments qui sont importants, quelle est leur fonction. Et ça peut passer par un vécu plus intérieur, où on va chercher à identifier quelles sont nos sensations, comment on se représente soi-même, quelles sont les images qu'on associe à notre anatomie, à notre vagin, à notre vulve, à notre périnée, quand on en a déjà entendu parler, et comment ces images peuvent éventuellement évoluer.
Alors, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en théâtre et en janvier dernier, j'ai été, on va dire, diagnostiquée de vaginisme, en tout cas quelque chose de très proche. Et voilà, je suis en traitement depuis, en thérapie, on va dire, depuis.
Et quand est-ce que vous avez commencé à sentir des douleurs? Comment c'est apparu?
C'était pas vraiment des douleurs, c'était juste... Déjà, j'ai toujours eu des règles très désagréables et très abondantes. J'ai fait des tests pour voir si j'avais l'endométriose, pas du tout. Et on n'a jamais vraiment compris d'où venaient ces douleurs. Et j'ai déjà essayé de mettre des tampons et à chaque fois, c'était une catastrophe. J'arrivais à mettre 1 ou 2 centimètres, même pas 1 centimètre. Et j'avais très très mal, je me mettais à pleurer et après je m'évanouissais. C'était une catastrophe. Et je me suis dit que c'était quand même pas normal que ce soit aussi douloureux. Et voilà, après j'étais allée voir une gynécologue pour voir si j'avais pas un hymen trop épais ou quelque chose comme ça. Et finalement, mon hymen va très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste dans la tête que je psychotais parce que j'avais un blocage sur mon sexe, je dirais, plus spécifiquement sur le vagin. Plus que pour l'extérieur. L'extérieur, ça allait, c'était plus le vagin, c'était un peu un gros blocage. C'était, comme disait la gynéco, un no man's land. C'était je n'y touche pas, je n'y pense pas, ça n'existe pas parce que c'est douloureux. Alors ici, je pense que ça dépend des kinés, mais on fait plus avec le doigt de la kiné. En fait, elle met juste un doigt pas très loin, elle met, je pense, 3 cm. Et après, c'est des exercices de trouver les points sensibles, essayer de les relâcher en contractant, en relâchant, en respirant bien, en essayant d'associer des sensations et des images aussi. Et j'avais très peur au début du contact parce que c'est quand même une relation assez intime vu que il faut quand même que la kiné mette le doigt donc dans le vagin pour que je puisse sentir les contractions du périnée et qu'elle les sente autour de son doigt. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de commencer. Moi, au début, je devais commencer en même temps que le sexologue et la gynéco m'a dit que j'étais pas du tout prête et qu'il fallait que j'attende. Donc j'ai attendu 2 mois et maintenant je fais les deux en même temps, enfin, en alternance. Et on se rend pas compte à quel point on est tendu. Moi, j'avais l'impression d'être totalement détendue, que mon périnée était totalement lâché, mais on se rend compte des fois qu'il y a un point qui est tendu, on contracte et après on relâche et on se rend compte que rien qu'en ayant fait ça une fois, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est juste que, inconsciemment, on est très tendu et on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'on est totalement libéré et relâché. En fait, c'est pas le cas.
Point technique. Il existe 2 types de troubles au rapport. Le premier, c'est le vaginisme. C'est quand le périnée, le muscle qui entoure le vagin, se contracte involontairement et rend la pénétration difficile ou impossible. Le deuxième type de trouble s'appelle la vulvodynie. C'est quand la vulve ou l'entrée du vagin est hypersensible et donc cette zone devient très douloureuse au toucher.
En kinésithérapie, on travaille sur ces 2 aspects, véritablement. L'hypertonie, donc la contraction du muscle, en donnant à la patiente la possibilité de ressentir ce muscle, de le contracter, de le décontracter, grâce à une meilleure sensation. Une fois qu'elle ressent véritablement où est le muscle, comment ça fait quand on le contracte et comment ça fait quand on le décontracte, elle est beaucoup plus à même de relâcher quand elle le souhaite et de sentir quand le muscle se contracte tout seul. Ensuite, on travaille sur l'hypersensibilité. Alors, c'est un petit peu plus difficile, mais on remarque que par un toucher progressif, non douloureux, on arrive à désensibiliser une zone qui a été hypersensibilisée. Au passage, c'est vrai que de toute façon, à force de toucher de manière non douloureuse, respectueuse, au juste rythme de la patiente, à la juste intensité, on permet aussi à la patiente d'être moins appréhensive et dans ce cas-là, de se réconcilier avec une zone qui a été compliquée du fait d'expériences douloureuses. Alors, on va commencer les exercices. Donc déjà, est-ce que vous avez l'impression de bien ressentir les exercices quand vous êtes en position assise? Vous les faites en position assise parfois?
Pas vraiment, non.
Ok, d'accord.
Enfin, je fais plus allongée.
Vous les faites toujours allongées, ouais. Comme dans la position où nous on travaille?
Ça, c'est vrai.
D'accord. Bon, on va essayer justement, raison de plus, de les voir en position assise. C'est aussi un moment où c'est plus facile de s'entraîner à plein de moments de la journée. Ouais. Et puis, il y a des moments aussi où vous pouvez être plutôt tendu. Pour voir dans certains contextes où on peut être stressé, on est plutôt pas allongé. Et donc dans ces moments-là, c'est bien de sentir comment se tient votre périnée et comment réussir à le relâcher un petit peu pour sortir de cette habitude de se tendre en premier lieu au niveau du périnée. Donc ouais, posez les pieds bien en dessous des genoux, une position confortable. Mettez-vous plutôt en avant de la chaise parce que vous allez vous sentir mieux assise. Voilà, très bien. Ok. Et dans cette position-là, déjà, essayez une première fois spontanément de faire une contraction périnéale. Alors, qu'est-ce que vous sentez?
Je sens plus le bas du périnée. Et au niveau, je sais pas si c'est au niveau du clitoris, mais beaucoup plus haut, une toute petite contraction.
D'accord, ok. Mais donc plus antérieure par rapport à quand on est allongé, c'est ça?
Ouais.
Ok, et puis un peu plus superficielle quand vous me dites le bas, c'est la surface, c'est ça?
Le bas, je dirais entre... là on travaille d'habitude le clapet du fond, mais encore plus derrière quoi.
Donc à la fois plus postérieure et plus antérieure. Donc
ça.
Moins le vagin, mais vous sentez la zone anale et la zone clitoridienne, en fait, ce qui est autour. Ouais. C'est plutôt le tour de l'urètre. Ça contracte, ça tire indirectement par les petites lèvres sur le gland du clitoris. Donc, ok, d'accord.
Au-dessus et en dessous.
En plus des séances de kiné, Emma s'exerce chez elle tous les soirs, soit avec ses doigts, soit avec des dilatateurs.
Au début, donc, le sexologue voulait que je fasse tous les jours un moment où je regarde ou alors touche mon sexe pour m'approprier cette zone qui était totalement coupée du reste de mon corps. Et au début, vraiment, ça m'enthousiasmait absolument pas, ça me saoulait, j'avais pas envie de le faire. J'avais vraiment un espèce de dégoût. Et ce que j'ai fait, du coup, vu que j'écoute beaucoup de musique, c'est que j'ai fait une playlist où j'ai mis plein de chansons que j'aime beaucoup, très calmes, très relaxantes, et du coup je me mettais une chanson par soir, et pendant la chanson il fallait que je touche ou alors que je fasse quelque chose, mais c'était une borne temporelle en fait. Et après je les ai classées, parce que je suis très organisée, par ordre de la plus courte à la plus longue, donc la plus courte elle durait même pas une minute, et la dernière de la playlist elle durait un quart d'heure. Du coup chaque jour je savais que ça faisait des durées beaucoup plus longues, mais c'était progressif et c'était rassurant d'avoir un cadre comme ça où je me disais je connais ces chansons-là, je sais quel est le rythme, je sais que c'est bientôt fini à tel moment, et c'était rassurant d'avoir ça pour m'accompagner. Ça me créait une bulle où je me disais bon, c'est pas agréable, mais il n'y a rien de grave, au pire si ça marche pas, bah, j'arrête. Et je pense que ça m'a quand même pas mal aidée, parce que je suis même pas arrivée au bout de la playlist. Au bout d'un moment j'en avais même plus besoin, parce que ça, c'est plus quelque chose que je voyais comme dégoûtant ou douloureux quoi.
Et est-ce que vous avez un souvenir d'un moment où vous avez senti quelque chose de changer, vraiment un petit déblocage, ou voilà, vous avez senti une petite victoire, quelque chose?
Alors c'est drôle parce que maintenant je me rappelle la première fois que j'ai mis un coton de tige dans mon vagin, j'étais super contente, alors que maintenant ça me paraît tellement ridicule, mais à l'époque c'était impossible. Et il y a un jour où j'ai réussi à mettre un tampon, et alors là c'était incroyable, j'y croyais même pas en fait. J'ai commencé à essayer de le mettre et je me suis dit bon, ça va pas marcher, mais ça marchera mieux que la dernière fois déjà. Et je me suis relevée, il tenait, je le sentais même pas, et là c'était incroyable. Mais il y a plein de petits stades d'avancée qui nous font réaliser à quel point c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça peut se débloquer quoi. Euh, je pense pas être encore totalement libérée sur tout l'aspect sexuel, que ce soit dans la tête ou dans l'envie ou dans le corps, mais je suis quand même très contente de l'avancée. Ce qui est drôle, c'est que maintenant j'ai l'impression d'être devenue une référence auprès de mes amis, parce que je connais tellement bien mon corps à moi maintenant, parce que je fais tout un travail où même on finit par se rapprocher de la masturbation, parce que au bout d'un moment, à force de toucher, il y a forcément des moments où il se passe quelque chose. Donc maintenant je suis presque une référence de comment il faut faire et qu'est-ce qui est agréable ou quoi, parce que j'ai pris le temps de chercher quelle partie correspond à quelle sensation, et c'est en prenant ce temps-là qu'on découvre vraiment ce qui nous fait du bien, quoi. Donc j'ai beau leur dire ce qui marche pour moi, ça ne veut pas dire que ça marchera pour elles, mais je leur dis quand même, ça les intéresse de savoir.
Mais du coup, ça vous a aidé aussi sur le plan du plaisir sexuel, en fait?
Ah, largement, parce qu'avant c'était inexistant, c'était pas possible, et très vite ça s'est débloqué, et maintenant je pense que c'est très très simple pour moi d'en avoir, quoi. En tout cas toute seule. Après je me sens pas encore prête à essayer avec quelqu'un, parce que il y a encore des petites choses à débloquer, mais après ouais, forcément ça, il y a tout un travail de recherche sur soi et sur son propre corps, ses propres sensations, donc forcément ça amène à une découverte du plaisir d'une manière ou d'une autre, quoi.
Pour Emma, le traitement avance plutôt bien, mais dans ce genre de trouble, chaque cas est différent. Dans son cabinet, Isabelle ressent en majorité des jeunes femmes au début de leur vie sexuelle, entre 20 et 30 ans. Mais les troubles peuvent arriver plus tard, par exemple après un accouchement ou la ménopause. Comme on touche à l'intime, les douleurs, les symptômes et leurs origines varient énormément d'une personne à l'autre.
Quelles sont les causes, les types de causes qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est forcément des causes psychologiques? Est-ce que c'est que des causes physiques? Est-ce que c'est un mix des deux?
Alors, on va, dans le cadre des difficultés au rapport, on va pas parler de causes, on va parler de facteurs de risque. Comme facteurs de risque, on peut trouver, pour simplifier, tous les éléments qui vont marquer négativement le vécu sexuel, corporel, au niveau génital, de la personne. Alors ça peut être des choses très concrètes, comme des infections urinaires, des mycoses, des IST diverses. Ça peut être un vécu de violence, on y pense souvent, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être un vécu négatif suite à une image de soi, un commentaire, voilà.
Déconstruire ce vécu négatif, se réapproprier son corps, c'est une étape importante dans la guérison. Et ça passe aussi par une leçon d'anatomie. Savoir dessiner une vulve ou un vagin, ça peut paraître anodin en théorie, mais en pratique c'est assez révélateur. À la fois de notre histoire personnelle, mais aussi des manquements dans l'éducation sexuelle à l'école, et de l'absence de représentation du sexe féminin dans la société. Ça fait un mois que Sarah a commencé sa rééducation périnéale. Elle fait sa première séance d'anatomie avec Isabelle.
Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans et je souffre de vaginisme.
Bien. Alors déjà, comment ça va?
Ça va bien.
Ça va bien,
oui, merci. Ça va.
Ok. Comment ça s'est passé après la séance de la dernière fois?
Le soir, j'ai essayé de faire quelques exercices, notamment sur les exercices pour les
jambes.
Et voilà.
Pour détendre les jambes.
Pour détendre les jambes. Avant de dormir, j'essayais aussi de faire les exercices de respiration. Et ça allait, ça m'a fait du bien.
Ok, bien. Est-ce que vous sentez quelque chose au niveau du périnée quand vous faites la relaxation générale? Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose ou pas?
Pareil, c'est je commence à sentir. Au début, je faisais pas la différence entre contracté et décontracté. Et maintenant, j'arrive à le faire. Donc, j'essaie de faire les exercices qu'on a fait, notamment l'exercice avec l'ascenseur comme.
Oui.
Donc, j'ai essayé de le faire. Après. Je l'ai fait qu'une fois parce que je commençais à avoir mal au ventre à cause des règles, donc j'ai dû le faire que le soir même.
D'accord. Ok.
Voilà.
D'accord. Donc vous avez fait l'exercice des portes d'ascenseur qui se referment, et vous les sentez qui s'ouvrent?
Oui.
D'accord. Super. Bon, bah c'est bien. C'est des progrès pas mal.
Alors, donc aujourd'hui, le but, c'est qu'on fasse un peu des bases d'anatomie. C'est pas tellement... Le but, c'est pas de vous apprendre des choses de manière scolaire, mais plus que ce soit une base de discussion pour voir non seulement les connaissances, mais surtout les représentations que vous pouvez avoir de cette partie du corps et de cette partie de votre corps en particulier. Pas forcément l'anatomie en général, mais aussi votre propre anatomie.
D'accord.
Alors... Au début, c'est un petit peu difficile, donc je vais vous demander de dessiner.
Je suis pas forte pour ça, par contre.
Par contre, je vais vous aider. C'est que je vais vous faire le cadre et ça mettra le niveau en termes de dessin. D'accord ?
On va bien s'y coller.
Voilà. Donc là, je dessine les cuisses ouvertes, les fessiers, le pubis et l'anus. D'accord ? Alors, si je dessine... jambes écartées, c'est tout simplement pour qu'on puisse voir un petit peu plus donc, la partie extérieure du sexe féminin et que vous puissiez représenter donc votre sexe à l'extérieur. Et je vous passe le crayon. Allez-y, essayez, on parle en même temps. Et si vous avez des doutes, vous pouvez me poser des questions. C'est un crayon, donc vous pouvez gommer, on peut... Voilà.
Mais non, mais c'est parce que... Surtout que je suis nulle en dessin.
Mais regardez.
Mais ça va, hein, comparé à moi, vous en sortez pas mal. Alors, il faut que je dessine... mon sexe à l'extérieur, c'est ça? Ça fait rien si j'y arrive pas.
Ah, ça fait absolument rien. Alors, vous venez me voir pour des douleurs qui se situent où ? Commencez par le lieu de vos douleurs. Qu'est-ce qui est douloureux ? Elles sont où les douleurs ? Vous avez des douleurs pendant la pénétration, les tentatives de pénétration ?
Oui.
Et c'est où ?
C'est là, à l'entrée.
Alors, à l'entrée de quoi ?
Du vagin.
Ouais. Je vous laisse pédaler un petit peu, hein. C'est fait exprès, c'est pour que vous trouviez vous. Représenter le vagin.
Ah, là, je saurais pas le faire. Vraiment, je saurais pas le faire.
Alors, dites-moi. Dites-moi ce que moi je peux faire. Si moi je le fais, est-ce que ça vous aide? C'est un triangle? C'est un point?
C'est un point.
Un point? C'est un point petit comme ça ou c'est un point plus grand?
Petit.
D'accord, petit. Autour de ce point, qu'est-ce qu'il y a?
Rien.
Rien? Ok. Parce que comme on en a déjà parlé, ça se situe aussi beaucoup au niveau de la représentation de votre propre corps. Et donc réussir à visualiser et, dans un deuxième temps, une fois qu'on arrive à visualiser, à reproduire sur le papier, ça fait partie de votre guérison.
Parce que je suis nulle en anatomie, mais ça va.
Mais non, mais c'est... Alors, vous n'êtes pas nulle en anatomie. Déjà, tout le monde est nulle en anatomie féminine.
Féminine, surtout. Comme je vous disais, mon père est médecin. Et quand j'étais plus jeune, on avait beaucoup de livres d'anatomie à la maison. Donc, je m'intéressais à tout.
Ouais.
Parfois, je me retrouvais en train de voir... De voir tout et n'importe quoi. Mais dès que j'arrivais à la partie génitale féminine, hop, je tournais la page.
Ouais. De toute façon, vous auriez trouvé pas mal d'erreurs et de choses qu'on pas encore qui étaient pas trouvées à l'époque. Mais oui, bien sûr. Et donc, tout le monde est nul en anatomie féminine, mais ça fait partie du symptôme que vous ayez du mal à représenter. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut essayer d'aller voir ce que vous vous êtes imaginé aussi à la place. Pas seulement penser à ce que vous n'avez pas pensé, mais aussi est-ce qu'il y a des images que vous avez fixées à la place de ce que vous pouviez constater visuellement et digitalement.
Oui.
Quand vous êtes excité, vous le sentez comment ? À quoi vous savez, par exemple, que vous avez envie physiquement d'avoir un rapport avec votre époux ?
Je le sens pas forcément parce que mon problème prend dessus en fait. Donc c'est très difficile à expliquer. C'est vraiment comme. Enfin. Je le sens pas parce que je sais qu'il y a une barrière en fait.
D'accord.
Donc c'est comme si je sentais pas toute cette partie-là.
Mais avant la première tentative de rapport, il y a des moments où vous vous sentiez excitée ?
Oui. mais je me l'interdisais parce que je...
Parce que c'était pas le moment.
Voilà, c'était pas le moment et que je me voyais pas faire ça avant le mariage, donc je me l'interdisais, on va dire ça comme ça. Et puis je sais pas en fin de compte si c'est parce que j'ai toujours eu ce problème que pour moi, pénétration, c'est... Je contractais sans savoir que je contractais, donc c'était assez bizarre.
Comment est-ce que vous avez appris que vous souffriez de vaginisme ?
C'était juste après mon mariage, donc tentative de pénétration, et là c'était pas possible. Donc au début je me posais des questions, je comprenais pas trop ce que j'avais. J'ai commencé à chercher sur internet un petit peu ce que c'était, donc c'est là où j'ai su que ça s'appelait comme ça, vaginisme. Ensuite j'ai consulté un gynécologue qui m'a bien confirmé que c'était un vaginisme et qui m'a orientée vers un kiné pour faire des exercices de rééducation. Au début déjà, quand j'ai commencé, j'étais pas d'accord sur le fait qu'il y ait une main ou autre chose positionnée sur cette partie-là. Et petit à petit, j'acceptais le fait qu'il y ait quelque chose qui se posait sur cette partie-là. Et avec un peu de volonté, j'acceptais qu'on aille plus loin à chaque fois. Et bien au début je pensais que j'étais la seule. Pour moi au début c'était mon problème, c'était moi le problème, donc j'arrivais pas à imaginer qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient en souffrir. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai été sur le site de l'association Les Clés de Vénus, je crois que ça s'appelle comme ça, et j'ai vu pas mal de témoignages, j'ai vu aussi pas mal de témoignages sur internet. Ensuite, j'ai fait quelques séances chez un sexologue. Donc, on a pas mal parlé. Il m'a expliqué qu'effectivement, que c'était un cas courant. Avec la kiné aussi, on en a pas mal parlé au début. Donc, il me disait qu'il y avait beaucoup de cas. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir « normale », entre guillemets. Je me disais « bon, finalement, je ne suis pas la seule. Ça existe vraiment. C'est... » Et puis ça m'arrive à moi, c'est comme ça. Et ensuite, ça a créé pas mal de tensions dans mon couple. Il y avait des moments très difficiles où j'avais pas envie de faire des efforts. C'était comme ça. Je me disais, c'est comme ça, ça m'arrive à moi. J'en ai beaucoup souffert au début. Et puis un jour, je me suis dit, il faut se motiver, il faut faire ce qu'il faut pour dépasser ça. Un jour, j'aurais bien envie d'avoir des enfants et si c'est le cas, ben, faut dépasser ça quand même. Donc ça m'a motivée à faire des efforts.
Ce qui m'a frappée en réalisant ce reportage, c'est le courage et la ténacité dont font preuve les femmes que j'ai rencontrées. Cette bataille de l'intime se joue en silence. Face à la honte, l'impression d'être anormale, l'incompréhension des proches et des médecins, vous allez l'entendre avec ce dernier témoignage. Guérir est parfois un véritable parcours du combattant.
Je m'appelle Mélissa et j'ai 25 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis ingénieure.
D'accord. Quand est-ce que vous avez commencé à avoir des douleurs ? Quelles douleurs vous avez ? Quel type de douleurs ?
Ça a commencé il y a 8 ou 9 ans à peu près. Et c'est des douleurs qui sont apparues au début pendant les rapports sexuels. Des douleurs... vaginale à l'intérieur et aussi superficielle. Et en un an, c'est passé de seulement pendant les rapports à tout le temps, quand je marche dans la rue, toute la journée. Ça me fait comme si... c'est très sympa, comme si on prenait du papier de verre qu'on me frottait sur la peau à cet endroit-là. C'est une douleur qui arrive surtout avec le frottement. Donc, par exemple, ça fait 8 ans que je mets plus de pantalon. Parce que dès que j'ai des vêtements trop serrés, en fait, c'est douloureux. Et quand je marche beaucoup, quand je fais du sport et que ça frotte, ça fait mal aussi. Ça peut être un peu source de stress dès que je me dis que je vais me balader pendant longtemps ou que je prévois des activités sportives. Et le stress amplifie la douleur, donc c'est un cercle vicieux. J'ai décidé de m'en occuper assez rapidement, en fait, peut-être 2 mois après l'apparition des douleurs pendant les rapports. J'étais allée voir ma gynécologue de l'époque, qui était très sympa. J'ai rapidement changé, puisqu'elle m'a dit que soit les douleurs étaient dans ma tête, soit c'est parce que mon copain ne prenait pas assez le temps et j'avais qu'à me débrouiller toute seule. Et après, ça a été une vraie errance médicale, où, encore un peu maintenant d'ailleurs, où j'ai vu d'autres gynécologues qui ont pensé que c'était d'origine, c'était des champignons. Donc ils m'ont traité pour ça, donc ça a été encore pire parce que ça a tout déséquilibré. Après, j'avais vu un spécialiste de la douleur qui a testé des traitements où je mettais des électrodes sur mes jambes, ça m'envoyait des signaux électriques, ça n'a absolument rien fait. Et c'est finalement mon médecin généraliste à qui j'en ai parlé qui m'a dit « Ah, mais je fais là un salon, j'ai entendu parler de ça. » Et qui m'a prescrit le Laroxyl, donc qui influe sur les nerfs en fait et qui permet de calmer la douleur et qui me permet de marcher tous les jours.
Donc vous avez commencé par prendre ce médicament, c'était quand ça ?
Donc ça c'était il y a 7 ans à peu près, ouais 7 ans.
Et après comment vous êtes arrivée ici dans le cabinet de la kiné, comment vous avez fait ?
J'ai déménagé, j'habitais à Lyon avant et maintenant je suis à Paris, donc je suis allée voir une nouvelle gynécologue à qui j'ai parlé de ces douleurs-là et elle m'a orientée vers une autre gynécologue spécialisée dans l'endométriose, parce qu'en plus j'ai l'endométriose, sinon c'est pas drôle, et elle-même m'a dit qu'il fallait que j'aille voir une dermatologue spécialisée dans les douleurs vulvaires. Qui m'a conseillé de venir ici et je vois en même temps une psychologue sexologue aussi. Pendant un moment, j'avais réussi à mettre un petit peu de côté, je pense. Dans mon quotidien, c'était pas du tout sain parce que j'arrivais à ne plus trop y penser, mais j'avais l'impression que les douleurs s'intensifiaient. Et donc c'est à ce moment-là que j'avais commencé à Paris à voir la nouvelle gynécologue parce que justement, je le gérais de plus en plus mal. Donc là, je suis de nouveau en couple et c'est difficile à gérer. Au quotidien, il y a eu un moment où, pendant plusieurs mois, on n'avait plus du tout de relations sexuelles. Le problème, c'est qu'en fait, quand la douleur s'installe pendant les relations, on finit par avoir peur d'avoir une relation. Donc on n'a plus envie. Donc en plus, on se lubrifie moins. Et donc, c'est aussi un cercle vicieux. Je pense qu'on a réussi à s'en sortir en communiquant beaucoup. Et en fait, c'est en continuant à en parler, en expliquant que voilà, c'est pas parce que j'ai pas envie de lui, c'est pas parce qu'il m'attire plus, que c'est pour d'autres raisons. Mais j'ai mis beaucoup de temps aussi à lui dire, en fait, quand j'avais mal, quand je voulais pas qu'on le fasse, parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas envie. En fait, j'ai mis du temps à le dire, je pense, parce que je me considère comme féministe. Je lis beaucoup à ce sujet-là, ça m'intéresse énormément. Mais en fait, je pense qu'il y avait plein de choses où, dans ma tête, je me disais, bah oui, si j'ai pas envie, je dis non, c'est évident. Et où en fait, il y a pas mal de moments qui sont pas tout blanc ou tout noir. Et où peut-être qu'au début, on en avait envie, et puis en fait, après, on se rend compte qu'on a mal, donc on a envie qu'on arrête. Des situations comme ça qui sont plus complexes et où dans ces moments-là, j'avais vraiment intériorisé la norme de se dire je suis une femme, j'ai mal, mais c'est pas grave, c'est mon petit copain, je l'aime, j'ai envie de lui faire plaisir. Je pense que ça, il y a une grosse part de j'ai envie de faire plaisir et du coup, j'ai un peu mal, mais c'est pas grave, lui, il est content. Et je pense que j'ai mis du temps à m'avouer à moi-même aussi que j'avais encore pas mal à bosser là-dessus et que tout n'était pas déconstruit. Ce qui a causé ces douleurs et tous ces problèmes pour dire non, c'est que ma première relation sexuelle n'était pas tout à fait consentie. C'est un peu ce qu'on appelle la zone grise, je pense. Je l'avais vu dans un reportage, ça m'avait bien parlé. Parce que c'était un garçon avec qui j'avais envie, en fait, d'avoir une relation à ce moment-là. Mais on n'était pas encore ensemble, on avait 17-18 ans. Et je voulais attendre qu'on soit officiellement ensemble, parce que je connaissais sa réputation. Et je suis allée chez lui, comme je le faisais souvent à cette époque-là, pour traîner chez lui. Et il m'a forcée à ce moment-là. J'avais réussi à enterrer ça, et à me convaincre que... sur le moment, j'avais dit non, mais en fait, j'en avais envie. Et je pense que ça a vraiment conditionné toute ma vie sexuelle derrière. Où, même si des fois j'avais pas super envie, j'avais pas du désir, et bah, je me disais non, mais ça va en fait, c'est normal. Je pense que ce qui m'a pas aidée non plus, c'est que en fait, j'ai parlé à mes parents de cette première fois, où il s'avérait que par la suite, le jeune homme n'a plus voulu sortir avec moi. C'est une histoire très originale. Et mon père, avait, à ce moment-là, m'avait critiqué et m'avait dit, en gros, que j'écartais les cuisses trop facilement. Et je pense que sous un couvert, des fois, dans les familles, de dire « on en parle ouvertement », ou « c'est pas un tabou », j'avais pas une famille qui me disait « il faut rester vierge jusqu'au mariage », mais il y a des fois des relents comme ça de sexisme un peu archaïque qui reviennent et qui contribuent aussi à modeler les femmes aujourd'hui, je pense.
Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui de votre situation? Quels sont vos espoirs voilà.
Bah forcément, je pense que mon plus gros espoir, là, c'est que les douleurs disparaissent. Après, déjà, là, petit à petit, j'arrive à avoir de nouveau des relations sans douleur. Donc ça, c'est déjà un gros progrès. Et j'aimerais bien qu'elles disparaissent dans mon quotidien. Et du coup, là, de manière concrète, les attentes que j'ai encore là, en poursuivant le traitement, c'est d'arriver à une bonne posture et un relâchement de mon corps qui soit plus naturel. Je pense qu'il faudra que je fasse les exercices un peu toute ma vie, mais que ça me vienne un peu plus naturellement. Et que j'espère qu'en fait, en relâchant tout ça, les douleurs partent en même temps.
Il est souvent difficile de trouver un professionnel de santé à l'écoute et formé sur ces questions. Si vous êtes reconnu ou senti concerné par ce témoignage, vous pouvez consulter l'annuaire de l'association Les Clés de Vénus sur le site lesclésdevénus.org. Il recense les professionnels sensibilisés aux douleurs sexuelles féminines partout en France.
Merci à Élise Coutenouillant pour ce reportage réalisé par Jules Cro pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.